la grande table se penche sur la photographie et le 7e art. À 13h30, le cinéaste russe Kantemir Balagov viendra nous parler d'une grande fille, prix de la mise en scène de la section Un certain regard à Cannes. Mais avant cela, évoquons ensemble Marilyn Monroe, partie un autre 5 août en 1962. Les circonstances non élucidées de sa mort n'ont fait qu'ajouter de l'ampleur au plus grand mythe d'Hollywood. Norma Jean, la petite fille à l'enfance malheureuse, devenue l'actrice la plus célèbre au monde. Derrière le symbole et l'image créée de toutes pièces se cache l'artiste incontesté, comédienne, chanteuse de jazz, immortalisée par les films bien sûr, et les photographies qu'expose en ce moment la Galerie Joseph de Paris. Nous accueillons aujourd'hui la commissaire de l'exposition, Ghislaine Reyer, pour en parler, et le critique rédacteur en chef de SoFilm, Fernando Canzo.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
You try to be true, and you feel sometimes it's on the verge of a kind of craziness, but it isn't really craziness. It's really getting the truth part of yourself out, and it's very hard, you know. I mean, it's not easy, but.
Je pense que les artistes sont... Je me vois moi-même comme quelqu'un qui devient un artiste. Certains rigolent. Je ne vais pas m'excuser. À vous, oui, mais pas à eux. Des fois, le travail est si... Vous savez, vous essayez d'être vrai. Et vous sentez parfois que vous êtes au bord de la folie. Mais ce n'est pas vraiment de la folie. En fait, c'est donner une vraie partie de soi-même. Et c'est très dur, vous savez. Non, ce n'est pas facile. Et pourtant, ça peut être simple parfois. Parce que des fois, on se dit, oh oui, il suffit juste d'être vrai. Mais ça ne vient pas si naturellement.
On entendait une archive de Marilyn Monroe de 1960 et Fernando Ganzo, on ne peut s'empêcher de penser justement au film Les Désaxés, ce dernier film dans lequel elle a joué, en tout cas dernier film achevé, où il y a toujours ce rôle-là de Marilyn entre la folie et la naïveté, ce jeu qui lui a collé au corps toute sa carrière.
Oui, et par ailleurs, c'est étonnant d'entendre sa voix qui était, par exemple, ce qui avait impressionné le plus le photographe Milton Green, dont on voit les images dans l'expo à la Galerie Joseph. Et c'est vrai que c'est un film où elle va chercher très très loin. C'est Arthur Miller, qui était toujours son mari à l'époque, qui va écrire le rôle pour elle, pour qu'elle puisse jouer un rôle, on va dire, plus dramatique, plus complexe, à tel point qu'elle était un petit peu gênée de jusqu'à quel point le rôle s'inspirait d'elle-même. Et c'est un tournage catastrophique, parce que c'est connu que non seulement John Huston était aussi sombré dans l'alcoolisme, la vie de Montgomery Clift à ces moments-là était très mal. Marilyn Monroe dira, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui est dans un pire état que moi, par Montgomery Clift. Clark Gable, ce sera son dernier film.
Il va mourir 12 jours après le film, hein, d'une crise cardiaque.
Voilà, et elle se retrouve, c'est tellement intime ce film pour elle, que Clark Gable, en plus, c'est un acteur que, quand Norma Jean était adolescente, petite, elle dormait avec une photo de Clark Gable, qui était évidemment la grande star du cinéma américain des années 30. Et pour elle, c'était non seulement un idole, mais une espèce de père idéalisé. Et donc, le fait qu'elle ait pratiquement fini sa carrière, parce que c'est le dernier film qu'elle a fini, vraiment avec une figure du père absent, c'est effectivement, par rapport à cette folie dont vous parlez, c'est quand même intéressant.
Alors là, l'archive, elle vient du tournage du film Let's Make Love, qu'elle n'a pas pu finir, le film de George Cukor, et finalement, c'est une Marilyn à la fin de sa vie que l'on voit, qu'une Marilyn qui est représentée dans l'exposition Divine Marilyn, tout au long de sa vie, à travers les photos, des photos de tournage, des photos parfois plus personnelles, mais souvent quand même des photos relativement contrôlées. Ghislaine Reyer, c'est ce que l'on remarque?
Oui, alors en fait, Marilyn a construit son personnage. Il faut savoir que très tôt, elle avait compris que pour être célèbre, il fallait se faire prendre en photo. Et c'était quelqu'un qui avait le sens de la photographie. Donc elle a très vite appris à prendre des poses, à se mettre en valeur. Elle a beaucoup travaillé. Elle n'est pas arrivée Marilyn Monroe comme ça par accident. Et de par le fait, si vous voulez, elle s'est construite complètement cette image. Et veuillez m'excuser, mais j'ai oublié le début de votre question.
Je disais que dans l'exposition, ce sont surtout des photos de plateau, quelques photos personnelles néanmoins, mais beaucoup de photos de plateau, de cinéma ou de photos relativement maîtrisées.
Alors en fait, elle s'est fait photographier tout le long de sa vie, et plus précisément par des photographes avec lesquels elle avait une certaine symbiose. Donc elle aimait beaucoup être en contact avec les photographes. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup maîtrisé son image. D'ailleurs, si on va dans la salle Bernstein de la galerie d'exposition, les photos c'est quand même pratiquement les dernières photos de sa vie, puisque c'est ce qu'on appelle la dernière séance.
6 semaines avant sa mort.
Voilà, exactement. Et en fait, bon, elle était déjà quand même très, très, très diminuée par tous les anxiolytiques et médicaments qu'elle pouvait prendre. Mais en même temps, elle s'est complètement laissée aller avec Bernstein. Ça, c'est évident. Mais n'empêche que 2 jours après, elle est quand même revenue le voir et elle-même a sélectionné les photos. Et elle avait mis des croix rouges sur les clichés qu'elle ne voulait pas dont elle ne voulait pas que les clichés soient diffusés. Donc elle a toujours fait très attention à son image.
Ce que l'on voit au début de l'exposition, ce sont d'autres photos, les photos de David Conover de 1944, des photos où Marilyn n'est pas encore la blonde que l'on connaît. Il y a cette double image de Marilyn, c'est-à-dire à la fois l'image figée, qui a fait le tour des magazines, les images d'affiches de films qui sont presque aussi importantes que les images véhiculées par les films.
Oui, absolument. C'est vrai qu'on se rend compte en visitant l'exposition. Parfois, on se rappelle de Marilyn Monroe, on va dire l'actrice, éventuellement la chanteuse. Et on ne parle jamais de Marilyn Monroe, la mannequin, mais c'est effectivement bouleversant jusqu'à quel point elle avait compris qu'effectivement, il fallait allier et l'image au mouvement du cinéma et l'image photographique pour créer une espèce de figure qui serait plus grande que toutes les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était son ambition. Marilyn Monroe n'était pas du tout naïve sur ça. Elle voulait vraiment être une star et faire tout ce qu'il coûte qu'il coûte, quoi. Et ce, avec de moments de douleur, de souffrance qui transparaissent parfois sur certains clichés. Mais aussi, je trouve, avec un enthousiasme, une certaine gaieté, et je suis très content de voir sur certaines des photographies qu'on voit que c'est par ailleurs le témoignage de beaucoup de ses collègues. C'est-à-dire de dire, on assumait que Hollywood nous a créés comme des produits, on était les blondes de la Fox. Cependant, on s'amusait bien et on était contente de monter dans ça. Après, par la suite, elle aura une telle conscience de son image que c'est elle qui va faire la guerre des studios. Et ça va être presque une révolution à Hollywood.
Alors cette gaieté en même temps des images, elle est contrebalancée par cette biographie que l'on sait, Ghislaine Reyer, difficile. Hein. On a parlé de son enfance, Norma Jean, enfant placée. Et puis il va y avoir finalement ces épisodes qui reviennent dans sa vie, de dépression, d'addiction. Et finalement, cette image, elle est à double tranchant. Cette image de Marilyn, elle est connue comme telle.
Oui, c'est justement pour ça que, si vous voulez, on a aussi fait cette exposition. C'était pour montrer que Marilyn, ce n'était pas qu'une enfance douloureuse et que ce n'était pas quelqu'un qui vivait dans l'addiction, qui avait des caprices et tout, mais que c'était une femme qui était sans doute beaucoup plus en avance sur son temps qu'elle ne le pensait. Il y a quand même peu de femmes à l'époque. Il faut quand même se savoir qu'on est dans les années 50. C'est quand même une époque qui est quand même encore très prude. Et les
années 50, c'est ces années de stars hollywoodiennes. Hein, voilà, puisqu'elle est née en 1926. D'ailleurs, l'exposition commence sur ce certificat de naissance. Oui. Cette paternité assez floue, puisqu'on voit apparaître un nom de famille, puis on comprend plus tard qu'elle prend le nom de jeune fille ensuite.
Alors, en fait,
sa
si
mère.
Vous voulez, donc c'est le nom de sa mère. Et justement, vous parliez tout à l'heure de la photo de Clark Gable. Sa mère lui avait montré une photo de son père supputé qui avait justement une fine moustache. Et en fait, Marilyn avait pensé que pendant très longtemps que son père aurait pu être Clark Gable. Donc c'est pour ça qu'effectivement, elle avait des atomes très crochus avec lui. Mais je pense que pour en revenir au fait de
la biographie de Marilyn,
de la biographie
difficile.
De Marilyn. Voilà, c'était une enfance difficile, mais je pense que c'est ça justement qui l'a construite. Vous savez, quand on est doué, parce que Marilyn était douée, les familles d'accueil qui l'avaient accueillie pensaient vraiment qu'elle réussirait. Elle s'est servie justement des photos papier pour ensuite faire des photos en mouvement avec le cinéma, mais elle n'a jamais été dupe, c'est-à-dire qu'elle a toujours refusé le carcan que lui imposait la 20th Century Fox. Elle a toujours été en bagarre avec avec Zanuck, qui était le président de la 20th Century, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais accepté d'être reléguée à un rôle d'idiote. Elle avait compris que quelque chose en elle était beaucoup plus important que ça. À l'époque, on était un peu dans le style des actrices bankable. C'était soit belle et tais-toi. Et Marilyn, justement, avait refusé ce genre de choses. Il faut pas oublier.
Même si c'est le rôle qu'on lui a fait jouer quand même, Fernando Ganzo, dans un certain nombre de films. Pourtant, on sait dans la biographie de Marilyn que c'était une amateuse de littérature, qu'elle était amie avec Truman Capote, qu'elle était mariée à Arthur Miller.
Ça, c'est Joshua Logan, le cinéaste qu'il a dirigé dans Arrêt de bus, qui est un des cinéastes qui parle le plus élogieusement d'elle. Enfin, tous les réalisateurs qui ont travaillé avec elle sont très élogieux, mais rappellent aussi en même temps jusqu'à quel point parfois c'était dur de travailler avec elle. Mais Joshua Logan, il est très, très, très élogieux. Il dit son seul problème, c'était qu'elle n'avait pas eu d'éducation. Et pour elle, ça va être très important.
C'est au sens des références, hein, littéraires,
au sens d'une vraie éducation. C'est-à-dire, elle avait beaucoup d'inquiétudes, curiosités, et ça se voit, elle est très très vive. C'est très étonnant dans les entretiens, jusqu'à quel point elle est drôle. Elle peut sortir des répliques un peu caustiques parfois. Et donc, elle va chercher toute sa vie. C'est pour ça qu'elle était très très attirée depuis très très jeune par des hommes plus âgés qui avaient une vraie culture, qui avaient une vraie éducation. Et donc effectivement très loin de ce modèle qu'on l'imposait et qu'elle-même elle a cherché à imiter parce que par exemple il y a cette actrice Betty Grable qui joue avec elle dans Comment épouser un millionnaire, qui était à une époque, c'était la grande pin-up d'Hollywood, et Marilyn Monroe l'admirait vraiment et parfois certains l'accusaient de l'imiter, et c'est-à-dire qu'elle est allée jusqu'au bout de cette figure, de la blonde un peu bébête, qu'on voit par exemple aussi dans Les hommes préfèrent les blondes. Et à un moment donné, elle a cherché à les dépasser. C'est-à-dire, elle a toujours pour moi une idée de contradiction. C'était elle-même qui disait, il y a deux personnes en moi, il y a une double personnalité chez Marilyn. Et je pense que toute sa vie est allée entre ces moments d'absence, de souffrance, et ces moments d'avoir une vraie détermination, effectivement, jusqu'à se révolter contre studio. Il faut savoir qu'au moment où elle crée sa propre société de production pour faire ses propres rôles, il va avoir un rapport très tendu avec la Fox qu'elle va gagner. Elle va gagner avec des conditions qui jusqu'alors n'existaient pas. Par exemple, il fallait qu'elle valide le cinéaste qui allait réaliser tel film. Il fallait qu'elle valide le projet. Elle voulait plus qu'on la mette dans 4 films par an. Il voulait faire un film par an, mais très bon et avec un grand cinéaste.
Donc il va y avoir justement des exigences de qualité sur Absolument. Le scénario qui correspondent aussi à ces exigences de qualité artistique. Alors on parlait de la littérature qui faisait partie de ses centres d'intérêt. Il y a aussi la musique, c'est peut-être que l'on entend le plus. Alors, ses qualités de chanteuse de jazz.
Oui, et qui sont assez innovatrices. C'est étonnant parce que aussi sa carrière peut se raconter par ses chansons. C'est-à-dire son premier grand succès qui est évidemment Diamonds Are Girls' Best Friend. Après, évidemment, I Wanna Be Loved By You de Certain Lame Show. Et à la fin de sa carrière, évidemment, peut-être la chanson la plus importante, qui est Happy Birthday, Mr. President, qui est une chanson non officieuse et qui est une interprétation assez étonnante, qui est inoubliable et qui montre jusqu'à quel point elle était tellement consciente de sa voix, non seulement de ses gestes, mais aussi de sa voix, qu'elle pouvait commencer à faire autre chose. C'est pas juste une voix sensuelle, c'est une voix ironique, c'est une voix qui a énormément d'humour, et parfois c'est une voix qui transporte aussi une énorme souffrance, parce que dans certains Lame Show, on se rappelle de I Wanna Be Loved By You, mais on oublie le dernier numéro musical du film, où elle chante Baby, I'm Through With Love, j'en ai marre de l'amour, c'est fini, où elle chante en jouant un peu comme elle joue déjà dans Les Désaccès, c'est-à-dire avec ses frémissements, cette façon de trembler qu'elle avait vers la fin de sa carrière, et qui est absolument bouleversante. Donc, alors, elle incorpore ça aussi au chant.
Jessène Reyer, effectivement, dans l'exposition, il y a un certain nombre de films qui sont présentés aussi, avec un montage vidéo. Alors, ces temps de réflexion, Le prince et la danseuse, Les hommes préfèrent les blondes, et Comment épouser un millionnaire notamment, comment a été faite cette sélection, quels ont été justement les extraits choisis.
Alors, vous pouvez parler des photos ou des extraits?
Je parle des extraits filmés qui sont présentés dans l'exposition.
En fait, les extraits filmés ne sont que, ça c'est un choix personnel, ne sont que des chansons. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours de l'actrice, de Marilyn en tant qu'actrice. Moi, je suis très fan de Marilyn en tant que chanteuse.
D'ailleurs, il y a un album qui est présenté, hein, il y a une jaquette d'un album.
Absolument, absolument. Et en fait, elle adorait Ella Fitzgerald. Et elle a pris beaucoup d'intonation d'Ella Fitzgerald. Elle a beaucoup travaillé sa voix. On lui avait dit d'écouter du Ella Fitzgerald live. Enfin, pas live, mais uniquement piano-voix. Et elle a fait beaucoup de progrès tout au long de sa carrière, qui a été malheureusement très rapide, mais sa voix était hyper travaillée. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a dû faire à peu près une vingtaine de films, elle a dû faire une vingtaine de chansons qui sont extrêmement remarquables. Je crois que sa voix, elle interpelle les gens, parce que justement, si son image a quelque chose de magnifique et de fragile, sa voix, c'est pareil, elle vous transperce quelque part. Il y a une espèce de candeur, de naïveté. Elle avait l'art de susurrer les mots. Et ne pas oublier aussi que, tout en aimant la chanson, c'est quand même grâce à elle que Ella Fitzgerald a pu chanter dans le plus célèbre club de Los Angeles, qui s'appelait le Mocambo. Il était interdit aux personnes de couleur à cette époque. Et Marilyn avait appelé le patron du club en disant, voilà, si vous ne prenez pas Ella Fitzgerald, qui est pour moi la meilleure des chanteuses, eh bien, je ne viendrai plus dans votre club. Par contre, si vous la prenez, je viendrai tous les soirs au premier rang avec des amis. Et elle a fait ce qu'elle a dit. Et du coup, Ella Fitzgerald a pu chanter dans le club noir, et c'est grâce à elle. Et d'ailleurs, Ella Fitzgerald lui en a toujours été reconnaissante. Elle s'était engagée. Vous voyez, c'était aussi une femme engagée.
On va écouter justement le début, la scène d'ouverture des Hommes préfèrent les blondes, le film de Howard Hawks.
We're just two little girls from Little Rock. Wrong side of the tracks, but the gentlemen friends who used to call, they never did seem to mind at all. They came to the wrong side of the tracks. Then someone broke my heart in Little Rock, so I up and left the pieces there. Like a little lost lamb I roamed about. I came to New York and I found out that men are the same way everywhere. I was young and determined to be wine and dine and ermine, and I worked at it all around the clock. Now one of these days in my fancy clothes, I'm a-going back home and punch the nose of the one who broke my heart. The one who broke my heart. One who broke my heart in Little Rock. Little Rock, Little Rock. Little Rock.
But Little Rocks.
Alors, le film de 1953, Fernando Gonzo, on entend justement ce duo, hein, la blonde Lorelei Lee et Dorothy Shaw, la brune Jane Russell que vous avez déjà cité. On peut peut-être évoquer ce que représente cet âge aussi du cinéma américain où la musique, qui n'est pas vraiment non plus une comédie musicale, vient soutenir le propos du film. Et là, le jeu de Marilyn va justement être renforcé par la qualité de son chant. Qui est un chant justement de jazz qui correspond peut-être assez bien à son histoire personnelle, à cette biographie difficile.
C'est vrai qu'elle avait une voix qui elle fait de son corps une matière, absolument, Marilyn, c'est ça aussi qui est étonnant. Je crois que la photographie est très importante pour elle de ce point de vue-là, mais aussi de sa voix va devenir une matière. Tout le monde dit jusqu'à quel point, en l'entendant parler, on avait une envie de la protéger, on avait une envie de l'aider. Et c'est étonnant comment effectivement ce corps qui s'est construit et qui est perçu comme un corps hypersexué, etc. En personne, vu comment elle parle, comment elle est, comment elle module sa voix, sa douceur, il n'est pas perçu comme un corps séduisant en général. Et même beaucoup de femmes à Hollywood disait quand elle arrivait, on n'était pas du tout menacé par elle, alors qu'on pouvait croire qu'elle va séduire notre compagnon. Et au contraire, c'était toujours une présence bienveillante. L'anecdote de Fitzgerald, elle est pas la seule. C'est-à-dire, elle était quelqu'un que sur le tournage pouvait être absolument distraite s'il y avait un technicien qui souffrait, par exemple. Et elle allait chercher à l'aider. Non, on arrête de tourner, c'est impossible qu'on continue à tourner s'il y a un technicien qui est en mauvais état. Voilà, donc elle avait une énorme générosité, un grand humanisme. Et c'est la chanson un peu qui va accompagner cette douceur, effectivement, dans ces numéros musicaux. Et qui va, pour moi, signer l'arrivée de cette nouvelle femme. Qui est Marilyn, et qui, pour certains, par exemple, il y a le critique Michel Mourlet qui disait que Marilyn signait l'évolution de la vamp à la femme. C'est-à-dire que c'est la fin d'un certain modèle des femmes dangereuses, androgynes, fortes, qui pouvaient être Marlene Dietrich ou Greta Garbo. Et avec Marilyn, c'est l'arrivée qui se rend des Kim Novak, des Brigitte Bardot, même il va citer Jean Seberg, qui était vraiment la femme douce et vraie. Et c'est étonnant parce que Marilyn admirait beaucoup Marlene Dietrich. Et quand on voit effectivement les numéros musicaux des Dietrich et ceux de Marilyn Monroe, on voit un tel bond, une telle différence qui est révélatrice, je trouve.
Alors, vous évoquiez ce film, peut-être ce serait bien d'en dire quelques mots. Des hommes préfèrent les blondes, c'est l'histoire effectivement de ces deux danseuses et d'une Marilyn qui va séduire un héritier et qui est la femme intéressée par l'argent, mais qui se venge avec une certaine ironie aussi du fait que les hommes ne s'intéressent qu'à sa beauté.
Oui,
une
voilà.
Sorte de réciproque.
Elle joue beaucoup avec l'ironie du personnage, alors que c'est un personnage à la base vraiment c'est la blonde bête qui est intéressée qu'au diamant, etc. Mais plus le film il évolue, plus on va être conscient du fait qu'elle elle joue absolument un jeu. Je crois que ça, à la fin du film, on comprend absolument. Et on comprend qu'elle manipule et qu'elle dit « je veux mon bien-être ». Et je comprends que le monde fonctionne comme ça, donc je le fais. Et par ailleurs, le film il a un numéro comique extraordinaire avec un enfant dans un hublot qui mérite la peine juste de le voir parce qu'il est vraiment hilarant. Et c'est étonnant parce que cette scène comique, c'est une scène où on voit juste le visage de Marilyn Monroe parce qu'elle est bloquée dans un hublot. Et elle cache un peu son corps avec un duvet. Et donc ça prouve jusqu'à quel point effectivement elle pouvait aussi faire partie de numéros comiques avec juste sa voix, le rythme, parce qu'elle avait une maîtrise du tempo. Beaucoup de critiques de l'époque vont signaler ça, jusqu'à quel point elle contrôlait les tempos des gestes mieux que personne, jusqu'à quel point elle inventait des gestes. Je crois que dans le film Les hommes préfèrent les blondes, une des choses les plus étonnantes, on l'a vu beaucoup de fois ces numéros musicaux du film, mais quand on le revoit aujourd'hui, on se rend compte jusqu'à quel point elle invente des gestes et des mouvements et des sourires à chaque instant. C'était inouï à l'époque, je trouve. Donc c'est normal que dans ce film là alors qu'elle joue avec Jane Russell, qu'elle admirait énormément, c'est le film qui va faire d'elle vraiment une grande star.
Ghislaine Rayer, ce que l'on voit dans l'exposition, à travers il y a 200 photos, des reproductions, il y a aussi la robe blanche, ce que l'on voit c'est justement le parcours des photographes et cette intimité qu'elle va créer avec certains. Alors André de Dienès, mais il y a aussi Sam Shaw, Milton Green qui ont déjà été évoqués. Comment est-ce que vous avez fait ce choix de parcours photo ?
Alors, c'est un choix qui a été mûrement réfléchi. On a mis pratiquement 2 ans avant de le faire avec le commissaire d'expo qui est Patrice Galupo. En fait, ce qu'on voulait, c'était trouver un photographe charnière qui représente Marilyn Monroe. Donc au départ, notre choix s'était porté sur Sam Shaw, puisqu'effectivement, la photo la plus connue de Marilyn, c'est celle sur la bouche des métros.
Ça, c'est Magnum, c'est la période agence Magnum, c'est la photo de plateau, la photo de cinéma.
Voilà, exactement. Mais en même temps, c'est ce qui fait que cette Marilyn Monroe était aussi connue mondialement. Après, il y aura bien sûr Andy Warhol qui finira cette concrétisation, mais la première photo qui est vraiment ultra célèbre, c'est celle-ci. Donc, on a contacté, avec un peu de difficulté au départ, les héritiers de Sam Shaw. Et il se trouve que je suis tombée sur la petite fille de Sam Shaw, qui était vraiment super adorable. Donc on a pris contact, on est allé les voir aux États-Unis, on a rencontré donc Eddie et Meta Shaw, qui étaient les filles de Sam Shaw. Et donc on s'est mis d'accord sur une 50aine de photos qui raconteraient un petit peu le parcours de Marilyn. Le problème, c'est que si vous voulez, Marilyn a eu plusieurs photographes phares dans toute sa vie. Donc en fait, chaque photographe ne représente des photos que sur une certaine époque de la vie de Marilyn.
D'autant plus qu'elle a eu des relations très fusionnelles, c'est représenté dans l'exposition, avec certains photographes. C'est le cas notamment de Bert Stern à la fin de sa vie, mais pas uniquement. Milton Green aussi, qui vont être des confidents, qui vont être des hommes proches.
A même été le photographe avec lequel elle est restée le plus longtemps, pratiquement 10 ans, alors qu'avec Milton Green, ça a duré 3 ans à peu près. Mais Milton Green a eu un gros avantage, c'est que, si vous voulez, il avait presque persuadé Marilyn Monroe qu'elle était capable de jouer autre chose que de la comédie. Et d'ailleurs, ça se ressent beaucoup dans les photos, et on le voit très bien sur l'exposition, c'est qu'en fait, il lui faisait jouer à chaque fois, dans chaque séance, il lui faisait jouer des rôles. Donc en fait, elle avait des attitudes différentes.
On va peut-être donner un petit exemple. Il y a cette célèbre photo d'elle en danseuse avec les deux pieds recourbés devant, qui est la photo de l'affiche.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le ballerina sitting. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, la femme de Milton Green, Amy, c'était elle qui était chargée de faire le shopping pour la séance photo. Et en fait, elle ne connaissait pas du tout la taille de Marilyn Monroe. Donc, elle a choisi cette robe parce qu'elle trouvait que cette robe de ballerine était trop mignonne. La seule chose, c'est que la robe faisait deux tailles en moins que celle de Marilyn. Et de par le fait, si vous voulez, elle n'a jamais pu se tenir correctement dans cette robe. Donc, à chaque fois, elle se penche et elle tient le corsage avec ses deux mains. Et il y a même une séance où on la voit, elle est carrément de dos. Il n'y a 15 centimètres qui manquent. Je veux dire, n'importe quelle star de l'époque aurait fait des histoires avec ça. Et non, Marilyn, elle a pris le parti d'en rire. C'était quelqu'un, je pense que c'est ce que disent, moi j'ai rencontré les gens qui l'avaient connue, c'est qu'en fait, elle est toujours restée la petite Norma Jean. C'était quelqu'un qui était très simple et qui, dans la vie de tous les jours, était très enjouée.
La grande professionnelle aussi. Il y a des parcours, dans le parcours photo, on voit que l'angle des jambes est calculé. On ne laisse pas, d'ailleurs, c'est pareil dans les films, Fernando Ganzo, il y a un contrôle, vous disiez, des réalisateurs, mais peut-être même jusqu'à l'image.
De tout. Même, elle s'est battue sur certaines productions, sur son maquillage, par exemple. C'est-à-dire, elle savait parfaitement comment, si elle était maquillée, comment son visage allait être. Et c'est vrai qu'il y a quelques photos dans l'expo, on la voit pas maquillée. Et c'est un peu étonnant. Et elle-même, elle disait, au sommet de sa gloire, elle disait, il y a des fois où j'enlève mon maquillage, je mets un chapeau, je me balade dans la rue, tranquille.
C'est les photos avec Stern, hein, où le corps n'est pas maquillé. Là, elle s'est prêtée à ce jeu-là, à la fin de sa carrière. Mais pendant les films, on voit qu'effectivement, elle sait mener sa carrière. Il y a un côté très professionnel, même dans l'usage du corps.
Oui, et même dans tous les sens. C'est-à-dire, tous les réalisateurs qui vont dire « Ah là là, elle est arrivée en retard », Billy Wilder qui disait « C'est un cauchemar, mon docteur me dirait ne plus jamais tourner avec Marilyn, elle arrive en retard, elle oublie les répliques, mais pourtant, t'as 20 secondes d'elle, c'est 20 secondes uniques. » Alors que je peux faire venir ma tante qui va arriver à l'heure, qui connaît la réplique par cœur. Personne ne va payer pour voir ma tante, mais tout le monde va payer pour voir 20 secondes.
Ghislaine Reyer, on voit justement aussi une séquence de photos très émouvante. Vous parliez de l'engagement, alors l'engagement politique, l'utilisation aussi politique de Marilyn Monroe comme emblème d'une certaine Amérique. Il va y avoir ces photos prises pendant la guerre de Corée, qui sont dans l'exposition, qui sont des photos qui viennent de l'armée américaine.
Alors la plupart, oui, viennent des soldats de l'armée américaine. En fait, Marilyn, comme c'était un petit peu une icône à cette époque-là, l'armée lui avait demandé de venir soutenir le moral des troupes qui étaient encore basées donc en Corée. Et à l'époque, elle venait juste de se marier avec Joe DiMaggio, donc ils étaient en voyage de noces au Japon. Et donc, elle est carrément partie quelques jours pour faire une tournée. Et en Corée, et donc c'était une tournée de chant, et tous les gens qui ont pu donc la rencontrer disent à quel point elle était absolument charmante. Elle était entourée de généraux et de colonels, et elle, la seule chose qui l'intéressait, c'était de se retrouver avec, comme elle les appelait, les petits gars. En fait, elle était beaucoup plus à l'aise avec les gens simples qu'avec les gradés. Et Il faut savoir qu'à cette époque-là, en Corée du Sud, il faisait très froid. Et comme Marilyn Monroe n'a pas hésité à chanter sur scène avec une petite robe avec des fines bretelles, bien évidemment, elle est tombée malade. Mais c'était pour vous dire son engagement. C'est-à-dire que pour elle, c'était vraiment très important. Si elle pouvait donner du bonheur à quelqu'un, elle n'hésitait pas à le faire.
Alors il y a cette idée, Fernando Ganzo, d'une Marilyn politique. Alors évidemment, idée qui va être encore plus importante de par la relation avec Kennedy. Ce lien, en même temps, qui est un lien relativement trouble, puisque derrière cette image naïve qu'on lui prête parfois, on lui prête aussi une image peut-être calculatrice à certains moments. C'est un peu cette double image dans la presse.
Oui, elle a toujours la double image, Marilyn. Mais c'est étonnant parce que on a tellement reconnu la Marilyn intéressée par la culture intellectuelle, consciente de sa carrière. Et
ces fragments ont été publiés. Il y a eu les poèmes, les
absolument,
fragments.
Absolument, quand elle écrit, c'est formidable. Et que aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui vont dire comment elle a pu épouser Joe DiMaggio. Qui était effectivement le joueur de baseball qui venait se retirer, qui était l'idole de l'Amérique. C'était, je sais pas, le Zinedine Zidane de l'époque. Alors qu'à l'époque, ce que les gens disaient, c'est comment il a pu épouser Arthur Miller. Parce que au moment où il va épouser Joe DiMaggio, c'est vrai que juste après, en plus, elle va en Corée parce qu'ils ont fait le Royal des Noces au Japon et donc. Elle devient vraiment la femme de l'Amérique. C'est vraiment au contraire. Avec Arthur Miller, il était soupçonné d'appartenir à des groupes communistes. Il avait refusé de déclarer à la commission McCarthy, ce que Marilyn a soutenu. En plus, elle s'est convertie au judaïsme pour l'épouser. Et elle est rentrée dans un cercle, on va dire, de gauche. C'est que, étonnamment, c'est ça qui est fort chez elle, n'a jamais influencé son image. C'est ça qui est fou, c'est qu'elle a pu passer d'être la femme du joueur de baseball, l'idole populaire, à la femme d'un écrivain qui aurait presque pu être prix Nobel, dramaturge qui aurait pu être presque prix Nobel, et très liée à la gauche, voire au communisme, à une époque où c'était vraiment très délicat. Et pourtant, son image ne va pas changer. Et après, effectivement, ça va l'amener à la fin de sa vie, à être très proche de Cercle Kennedy, et notamment, enfin, avec une légende qui entoure jusqu'à quel point tout est vrai ou pas, mais c'est évident qu'il y a eu, surtout avec John Fitzgerald Kennedy, une relation intime proche et forte, même si brève, et voilà, qui va effectivement mener à cet incroyable Happy Birthday.
Alors il y a aussi ce passage avec André Miller dont vous parlez, qui correspond aussi au Désaxé, qui est une nouvelle au départ, qui est écrite en 57, au début de leur relation, quelques mois après leur relation, qui deviendra un scénario de film, et le film de John Huston. Je vous propose d'en écouter un extrait.
She's crazy. They're all crazy. You try not to believe it because you need them. She's crazy. You struggle, you build, you try, you turn yourself inside out for them. But it's never enough. So they put the spurs to you. I know, I got the marks. I know this racket. I just forgot what I knew for a little while.
On entend un extrait de Misfits, hein, Les Désaxés, le film de John Huston et le scénario d'Arthur Miller. Je ne sais pas pourquoi j'appelle André tout le monde. Aujourd'hui, c'est bien sûr Arthur Miller, qui était encore son mari à ce moment-là, phase de divorce. Et ce film, qui est un film identitaire, à la limite entre l'identité de Marilyn, la vraie, en tout cas celle telle que vue par Arthur Miller, et son personnage public. On arrive à une sorte de confrontation de l'égérie avec son image. Fernando Gandu dans ce film.
De plus en plus, à la fin de sa carrière, il y aura ça, ce qui est bien bouleversant. Après, cette séquence qu'on vient d'entendre, elle est incroyable aussi, parce que peut-être qu'on ne s'est fait pas l'idée en l'entendant juste, mais elle est filmée en plan très très large.
Alors, il faut raconter d'abord un peu le film et puis cette séquence. Hein, c'est une sorte de trio d'hommes auxquels elle est confrontée. D'abord, Marilyn est en train de divorcer.
Oui, voilà. Et du coup, elle est protégée un peu par Eli Wallach, qui va l'amener se retrouver avec les personnages interprétés par Clark Gable et Monty Clift.
Des cow-boys. Hein,
qui sont des cow-boys, et elle, dont elle devient très très proche des deux. Et elle va en quelque sorte se libérer, enfin je résume très grossièrement. Mais à la fin du film, il y a la séquence qui est un peu bouleversante, c'est une espèce de revers de Atari de War Hawks, où on voit Clark Gable et Montgomery Clift rattraper des mustangs, des chevaux sauvages. Et ce que pour Marilyn devient horrible.
Oui, parce qu'ils les vendent, c'est Houston, hein, c'est, voilà, et ils les vendent pour les manger, en fait, pour que ça devienne de la nourriture pour animaux. Et elle ne supporte pas ce massacre.
Elle ne supporte pas le massacre.
Et elle en profite pour tenir un discours sur les hommes.
Voilà, à la fin, parce que Clark Gable, au préalable, il a eu tout un discours de « ici c'est chez moi, tu vois, cette terre, je me sens chez moi ». Donc il y a tout un discours sur la liberté de la terre, idéaliser la figure du cow-boy. Et c'est là qu'elle va retourner tout ça contre eux. Et en plus, tous ces arguments qu'il va utiliser contre eux sont d'ordre sexuel. C'est vrai, t'as gagné, enfin, on vient de dire, on voit qu'il a prouvé ta virilité, quoi. C'est bon.
Il n'y a que le meurtre qui l'est satisfait, hein. C'est ce qu'elle dit, hein. Le meurtre, le sang, c'est un discours sur les hommes et les femmes, Ghislaine Reyer, qu'on va voir tout le long de sa carrière, hein. Le discours de sa féminité. Est-ce que c'est une femme forte, un sexe symbole, une fragilité? On va voir qu'elle est quand même confrontée, y compris dans les photos, à aussi beaucoup de misogynie qu'elle va habilement déjouer.
Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on était toujours dans le style « Sois belle et tais-toi ». Et Marilyn, elle cherchait quelque chose. Elle cherchait à montrer quelque chose de différent. Mais je crois qu'il y a quand même une chose qu'il faut pas oublier, c'est que Marilyn Monroe, c'est toujours un mythe. Et en même temps, qui, à notre époque, a vu des films de Marilyn Monroe? Nous avons fait beaucoup d'expositions en Chine, et je peux vous assurer que Marilyn Monroe en Chine, mais c'est l'idole absolue. C'est-à-dire que s'ils ne connaissent qu'une star, c'est bien elle. Et à mon avis, les Chinois n'ont pas dû voir les films de Marilyn Monroe. Donc je pense qu'il faut se poser la question, pourquoi à
peut-être
l'époque
que
où
si,
on vit...
Peut-être que si, Hollywood c'est aussi ça. Fernando Gonzo, on peut aussi se dire que à la fois le cinéma, mais aussi la musique, mais aussi Andy Warhol et le pop art, ont fait que Marilyn Monroe a fait une sorte d'unanimité qui a dépassé son personnage.
C'est ça qui est étonnant, c'est que elle est la première figure, on va dire, moderne de la culture pop, peut-être avec Elvis, mais et qui en même temps a figé une image qui est absolument classique. C'est-à-dire, c'est comme si elle avait créé un canon qui est elle et qui est universel et qui est impossible d'être perverti et détruit et qui sera éternel. Donc c'est ça qui est étonnant. C'est justement, il y a dans l'expo, il y a un entretien avec Adrien Gombeau qui cite ça et qui dit on a vu des images de Marilyn dans des objets extrêmement moches. On peut aller dans une boutique à des produits à 1€ et s'acheter, je sais pas, une tasse avec la tête de Marilyn avec des mauvaises couleurs comme en reprenant Andy Warhol, mais mal et horrible, et cependant rien pour abîmer son image. Elle sera toujours incrémentable, y compris sa mort, parce que je pense que sa disparition fige aussi une époque. C'est
jeune, aussi, à 36 ans, et dans des circonstances assez quand même mystérieuses. Pour revenir sur cette question de l'image, il y a une sorte d'impression de création des deux côtés dans ces photos, c'est-à-dire que l'intimité créée avec les photographes donne le sentiment qu'elle aussi crée la photo et qu'elle devient un peu artiste de ces photos-là, Ghislaine Reyer.
C'est évident que de toute façon, Richard Avedon disait que c'était quelqu'un qui comprenait très bien la photographie. Donc c'est pas innocent que Marilyn soit restée, qu'il y ait autant de clichés fantastiques d'elle. C'est parce que de toute façon, même si elle savait capter la lumière, il y avait une relation avec le photographe qui était sans doute très forte. Et en plus, c'était quelqu'un qui travaillait ses rôles. Enfin, ses rôles, mais je parle également des photos. C'est-à-dire qu'elle elle s'observait, d'après ce que disait Sam Shaw, elle pouvait s'observer pendant des heures sur la façon de relever légèrement la lèvre supérieure pour ne pas faire d'ombre sur la photo. Elle avait souffert de rachitisme lorsqu'elle était jeune, donc ses jambes n'étaient pas soi-disant aussi belle que ce qu'on veut bien parfois montrer. Donc elle passait des heures devant son miroir pour essayer de trouver des angles où ses jambes soient suffisamment présentables pour donner l'apparence.
Donc là, il y a un travail de création.
Mais Marilyn Monroe, c'est une création.
C'est une création, mais une créatrice aussi.
Marilyn Monroe n'existe pas. Quand elle était à l'agence de la première agence de mannequins où elle est rentrée à 18 ans, en fait, elle avait pris des cours pour se maquiller, pour se coiffer, et la personne qui tenait cette école disait qu'elle n'avait jamais vu de jeune fille aussi assidue au cours et qui vraiment était hyper perfectionniste. Marilyn Monroe pouvait passer des heures pour essayer de trouver une petite touche de rose qui puisse éclairer son regard. C'était une grande professionnelle. Elle voulait réussir et elle s'est donné tous les moyens pour réussir.
Fernando Gonzo, on voit aussi derrière un sens esthétique affûté, une sorte de regard aussi personnel qu'elle a supporté sur sa propre image, celle de celle qui se fait prendre en photo et le modèle qui finalement aiguise aussi le regard du photographe.
Moi, je crois qu'elle développe une vraie relation avec les photographes comme une actrice avec son réalisateur ou sa réalisatrice, de vrai travail de co-création. Les photos de Milton Green, dont on parlait tout à l'heure, sont très intéressantes dans le fait où il joue des personnages. Et c'est vrai que quand on finit de voir la série, on a l'impression d'avoir vu un vrai portrait de Marilyn, de l'avoir vu tellement déguisée dans des personnages très différents, dans d'attitudes tellement différentes, que finalement, à la fin, il y a que Marilyn qui nous reste. Et je crois qu'elle était consciente absolument de ce travail-là avec les photographes, c'est-à-dire de ce qu'elle exposait, de ce qu'elle montrait, et qu'elle travaillait son personnage photographique comme un personnage de film. Et donc, où elle était...
Comme un personnage pop aussi, hein, qui va être repris ensuite par Warhol. C'est elle qui invente, d'une certaine manière, ce blond, ce grain de beauté, deux petits signes très reconnaissables. Le rouge à lèvres, ouais. Toujours le même.
Absolument, c'est intéressant aussi de voir le cheminement vers cette image-là. C'est vrai que elle devient à tel point perfectionniste que parfois quand on l'accuse de retard ou de faire trop de prises, les gens se disent c'est parce qu'il oublie son texte. Mais non, c'est pas ça, c'est que elle voulait que la prise soit aussi parfaite. Et parfois ces retards aussi était provoqué par ça. C'était pas un caprice. Elle disait toujours, j'arrive toujours 2 heures en retard à mes rendez-vous, mais c'est important parce que je vis pendant ces temps de retard. Et c'est physique et c'est psychologique.
C'est la mise en condition aussi.
C'est la mise en condition. Et je traverse beaucoup de choses jusqu'à être capable de me mettre en état d'avoir quelqu'un en face et de parler avec lui. Et c'est important et c'est beau.
Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Je rappelle qu'on peut aller voir l'expo Divine Marilyn à la Galerie Joseph jusqu'au 22 septembre prochain. It rains blood when I'm with you. It rains blood when I'm with you. You're my sun when clouds roll through. It rains blood when I'm with you. I may not be the richest man, everything I can. I always try to do my best. When I fall short, I let love do the rest. It rains love when I'm with you. It rains love when I'm go through. It rains blood when I'm with you. I was wrapped up in myself. Et on entend Litfields, It Rains Love, issu de l'album du même nom, sorti cette année. Retour à l'âge d'or de la Stax et de la Motown des années 60 avec l'infatigable Litfields, le James Brown de Caroline du Nord. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture. Si vous nous rejoignez, c'est la seconde partie de la grande table d'été avec pour invité l'artiste, cinéaste Kantemir Balagov. Ça se passe en 1945 dans un hôpital de Leningrad. Le siège tristement célèbre s'est achevé quelques mois auparavant. Un siège long comme la mort. De ces 872 jours d'horreur ressortent des rescapés claudiquants de tout leur être. Le corps et le cœur atteints jusqu'à la moelle. Dans son deuxième film, Une grande fille, le jeune réalisateur russe Kantemir Balagov revisite une histoire traumatique à travers les yeux et les nerfs d'une infirmière. Il est aujourd'hui l'invité de la grande table d'été. Bonjour Kantemir Balagov.
Bonjour.
Vous êtes traduit par les soins de Joël Chaperon.
Вас как зовут?
Ия. Маш.
Че на тебя так наградила?
Осколок.
А сын, откуда знаете?
Воевали вместе.
Для производства жизни у вас ничего не оставили.
Вдруг чудо. Дитя хочу. Вырастет умным в глазах. Будут твои высокие. Он нас вылечит.
Kantemir Balagov, c'est un extrait de la bande-annonce de votre film qu'on vient d'entendre, Une grande fille, et c'est cette ville ravagée que vous avez décidé de raconter, ravagée, et ses personnages, les survivants du siège de Leningrad, que l'on retrouve dans un hôpital.
Effectivement, oui. En 2015, j'ai lu le livre de Svetlana Alexievitch, La guerre n'a pas un visage de femme, et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelle était ma représentation de la guerre totalement artificielle, et je comprenais assez peu, en fait, le rôle des femmes dans la guerre.
Et
effectivement, l'action se passe juste après le blocus de Leningrad parce que c'était important pour moi de voir, de montrer qu'il y avait dans cet espace une histoire. Parce que même aujourd'hui, lorsque tu te promènes dans les ruelles de Saint-Pétersbourg, tu sens en fait dans l'air l'histoire de la ville, tu sens l'histoire de ses destins difficiles. Et c'était important pour moi que cet espace et que l'histoire de la ville soit vue via les visages de ces femmes.
Alors c'est une histoire aussi d'enfermement, c'est une histoire qui se passe dans un hôpital, même si le siège de Leningrad est lui-même achevé, fini. On retrouve cela aussi dans votre premier film, Kantemir Balagov, dans Tesnota, une vie à l'étroit, comme son nom l'indique, c'est l'idée aussi d'un espace réduit, un peu claustrophobe.
Effectivement, il y a une espèce de pression qu'on ressent dans l'espace, dans ce film-ci, une grande fille, mais si dans Tesnota, il y avait quelque chose de beaucoup plus traditionnel dans le côté fond social. Dans le film Une grande fille, c'est beaucoup plus un contexte humain.
Alors vous disiez que votre source d'inspiration, Kantemir Balagov, ça a été justement La guerre n'a pas un visage de femme de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature en 2015. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que ça a représenté pour vous, la découverte de cette œuvre qui, je ne sais pas si vous le savez, a été traduite très tardivement en France, puisqu'elle est de 1985.
Même vous dire plus, en fait, je pense que la plupart des lecteurs en Russie l'ont lu justement une fois qu'elle a eu reçu le prix Nobel, bien après. Et moi, par exemple, je fais partie de ces lecteurs-là. Effectivement, par rapport aux Russes, si vous voulez, il y a une ambivalence. Il y a des gens qui pensent que ça noircit l'exploit qui a été accompli par les Soviétiques durant la guerre. Moi, je pense le contraire, parce que je pense que justement, que la guerre est un ensemble de nuances et qu'il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants, ou d'un côté les courageux et de l'autre côté les lâches. Et je pense que, effectivement, ma plus grande impression, ça a été le rôle de la femme, le rôle des femmes dans la guerre et notamment du destin qu'elles ont eu après la guerre.
Alors, cette histoire de femme, puisque votre film est l'histoire de deux femmes, il y a Emma Cha, c'est aussi l'histoire d'une femme que vous reprenez, puisque Svetlana Alexievitch est non seulement la première femme de langue russe à obtenir le prix Nobel, mais elle aussi a raconté des histoires de femmes et le rôle des femmes pendant la guerre. Est-ce que c'est ce prisme féminin-là qui vous a intéressé sur l'histoire russe, Kantemir Balagov ?
Plutôt que oui, je vais vous dire pourquoi, en fait, c'est le deuxième film que je fais à propos de personnages de femmes.
Moi,
c'est plus confortable pour moi, en fait, en tant qu'être humain, de travailler sur ces histoires-là, parce que c'est plus intéressant, via justement ce regard des femmes, de regarder moi-même mon côté féminin. Parce que je suis sûr que chaque personne a en lui-même, en elle-même, même il y a un côté masculin, un côté féminin. C'est une sorte d'analyse, une étude en fait que j'ai faite sur moi-même et je pense que c'est une sorte de sublimation.
Alors le travail justement de Svetlana Alexievitch, elle disait qu'il était aussi inspiré de par la parole de sa grand-mère, de ses récits de guerre, ces récits qui étaient plus ignorés avec le rôle des femmes pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous aviez eu des récits familiaux concernant la guerre ? Vous êtes très jeune, vous allez avoir 28 ans, vous venez d'avoir 28 ans, Kantemir Balagov ?
Malheureusement, ou plutôt peut-être heureusement, dans les gens qui m'ont entouré, en tout cas même du côté de mes parents, j'ai jamais été de manière si proche touché par la guerre, comme dans le livre de Svetlana Alexievitch par exemple. Mais je pense que les connaissances que j'ai reçues de la guerre, c'est essentiellement dû à ce livre et puis globalement de la littérature. Ce qui m'a le plus plu, si vous voulez, c'est que maintenant le film vient de sortir et que la jeune génération m'écrit sur les réseaux sociaux que le film les a touchés et qu'ils comprenaient quel difficile avait pu être le destin de leur grand-père, de leur grand-mère. Il y en a certains d'ailleurs qui emmènent aussi, ces jeunes-là emmènent aussi leurs grands-parents voir ce film. Et moi, ça m'intéresse vraiment et ça me plaît vraiment parce que c'était l'une des tâches que je m'étais aussi assignée, c'était de faire un film de jeunes sur les jeunes pour les jeunes.
Je vous propose qu'on l'écoute, Svetlana Alexievitch, c'était sur France Culture dans les matins, le 2 novembre
2015.
Je pense... que la femme dans la culture russe et dans la vie de la Russie, c'est un soutien pour l'homme parce que toute l'histoire russe, c'est une histoire des guerres, d'expansion dans l'espace et l'homme n'a jamais été chez lui, au foyer. Il est toujours dehors. Et la vie passe, et c'est la femme qui s'occupe de cette vie quotidienne, des enfants, et porte tout ce poids. Et les femmes ont vécu tout ceci dans cette manière très particulière dont seule la femme peut vivre d'abord et ensuite en parler. Et dans tout ce cauchemar, de trouver un sens, d'en faire un sens. C'est ça qui m'a toujours frappée, comment les femmes peuvent en faire un sens. Parce que les hommes, ils sont toujours pris dans l'action, tout comme maintenant, ils sont en Syrie, en Ukraine. Ils sont en train de sauver le monde russe. Les hommes sont toujours pris par des super valeurs et ils ne peuvent pas être dans la vie réelle, simple.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit, Kantemir Balagov?
Je suis d'accord avec Svetlana lorsqu'elle commence à dire que les hommes sont beaucoup plus dans l'action, c'est plus dans leur nature d'être dans l'action. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est
plutôt des dimensions culturelles. C'est plutôt des dimensions culturelles que naturelles.
Je pense que c'est culturellement et socialement et politiquement, en fait.
Je me suis formulé différemment,
c'est-à-dire que pourquoi est-ce que ça m'intéresse de regarder les femmes au cinéma, parce qu'on m'avait déjà demandé pour Test Nota pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit une femme qui soit l'héroïne du film. Moi j'ai vu Rosetta des Dardennes, j'ai vu Mouchette de Bresson, j'ai vu Breaking the Waves aussi. J'ai compris à ce moment-là qu'il était intéressant pour moi de regarder les femmes qui agissent. Parce que peut-être que pour moi, la femme est plutôt associée à une idée de confort. Je rejoins là-dessus, effectivement, ce que dit Svetlana Alexievitch. Et lorsqu'elle va à l'encontre, en fait, de ces stéréotypes, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle se met à agir, la femme, à ce moment-là, moi, ça m'intéresse, à ce moment-là, de la suivre en tant que metteur en scène.
Alors vous, vos deux héroïnes, ces deux jeunes femmes, Ia et Masha, sont toutes les deux complètement prises dans cette guerre. Il y en a une qui revient du front et qui veut à tout prix avoir un enfant puisqu'elle en a perdu un. Et il y a cette autre femme qui soigne les blessés et qui refait vivre à tous le conflit à travers ces crises. Alors comment est-ce que vous l'avez imaginé, cette action de ces femmes, en tout cas ces deux actions parallèles, Kantemir Balagov?
La manière que j'ai eue de les mettre l'une en face de l'autre, c'est dû aussi à un certain nombre de choses que j'ai lues, des journaux intimes, des livres que j'ai lus. La motivation principale de Masha, c'est quelqu'un qui sait que biologiquement, elle peut. En théorie, donner la vie, mais qu'elle a été entourée que de la mort lorsqu'elle était sur le front, lorsqu'elle était à la guerre. Et elle tient absolument à donner la vie parce qu'elle doit donner la vie à quelqu'un qui n'aura pas connu la mort.
Et
donc, dramaturgiquement, en fait, que la seule personne, finalement, qui puisse l'aider à ça, qui puisse l'aider à guérir de ça, c'est Ia, c'est le deuxième personnage féminin. Et donc, on est parti de là pour essayer d'aller vers une espèce de collision, si je puis dire, qui permettrait de faire avancer l'histoire, non pas. Comme j'aurais pu le faire de manière superficielle au début.
Alors ce sont les traces de la guerre que l'on observe. On les observe notamment dans le corps des victimes, que ce soit les victimes qui se retrouvent estropiées, paralysées, mais on les retrouve aussi comme un traumatisme psychique qui apparaît dès le début du film. Vous avez fait ce travail, Kantemir Balagov, du son, et y compris le film s'ouvre sur cette crise d'angoisse de l'infirmière. Pourquoi est-ce que vous avez choisi justement d'aborder ce sujet-là par le corps et par le son ?
Pour moi, c'était important que dans le film, il y ait toujours un écho de cette guerre. Et c'est pour ça que, dès le générique, on entend effectivement dans le son quelque chose qui perdure.
Ce
qui perdure, justement, c'est de manière à pouvoir éviter de pouvoir s'échapper de cette réalité. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai décidées dans ce film qui doivent essayer de permettre aux héroïnes d'échapper à la réalité qui les entoure.
Et,
par exemple, ce son qui perdure, cela tient, par exemple, cela revient vers les radiospectacles, par exemple, que j'ai introduits dans deux scènes majeures. Parce que c'est les radiospectacles que nous avions à l'époque, que c'était aussi une manière pour les gens de l'époque de sortir de la grisâtre qui les entourait, parce qu'ils partaient dans une espèce d'autre espace grâce à ces radiospectacles. Et pour moi, c'est la même chose avec la couleur, par exemple, dans le film. Parce que le film, au début, je l'avais imaginé en noir et blanc, mais lorsque j'ai étudié les journaux intimes de l'époque, je me suis dit à ce moment-là que, via la couleur, les gens essayaient d'améliorer leur quotidien, si je puis dire, de le rendre moins difficile, moins lourd. Et c'est pour ça que je savais qu'il fallait, que je les sorte de cette espèce de grisaille.
Alors il y a ce travail du bleu, du vert et du rouge, de ces couleurs chatoyantes dans le film. Les couleurs sont très vives.
Oui. Chaque couleur a son rôle aussi. Si le jour, c'est la couleur de la corrosion, la couleur de la rouille, évidemment, le vert, c'est la couleur de la nouvelle vie, aussi le fait de pouvoir donner la vie. Et puis, bien évidemment, il y a une espèce de dynamique que j'ai mise en place pour arriver à la fin du film avec une confrontation de ces couleurs. Et donc, cette couleur-là est tellement vive parce que je voulais que les héroïnes, justement, restent fières à l'intérieur du film en tant que personnage.
On a le sentiment pourtant que le corps est toujours gênant. D'ailleurs, le titre de votre film, c'est « Une grande fille ». Tout est vu à travers ce regard de cette infirmière gigantesque que l'on surnomme la girafe. Alors, est-ce qu'effectivement, le corps est toujours vécu comme une sorte d'emprisonnement ?
Я не уверен, что тело это тюрьма. Je suis
pas sûr que le corps soit un emprisonnement.
Потому что это более
physique. Parce que c'est plus physique.
Мне кажется, что тюрьма.
Il me semble que l'emprisonnement, il est surtout dans la tête. Il est.
Все-таки. L'emprisonnement,
c'est pour moi quelque chose qui te relève de l'émotionnel et pas du physique.
Et
notamment si on parle des traumatismes qui sont postérieurs à la guerre.
Parce que
c'est plus facile effectivement d'arriver à un traumatisme physique qu'à un traumatisme émotionnel.
Il y a une violence que l'on retrouve justement à travers la manière dont s'expriment les traumatismes. Et la violence, elle est à peu près partout dans le film. Il y a une violence physique, une violence sociale, une violence sur le corps des femmes. Les femmes sont battues, violées, se battent entre elles. On vous avait déjà beaucoup parlé de cette violence dans les films avec votre premier film, Tess Nota. Est-ce que justement, c'est une sorte de fil conducteur que vous tissez de film en film, Kantemir Balagov, la violence ?
Malheureusement,
la violence fait partie intrinsèque de la nature humaine.
Et
donc, l'humanisme, c'est l'histoire qui nous l'a inculqué. Mais à la base, effectivement, la violence est à la base de la nature humaine.
On va reparler un peu de votre premier film, Tess Nota, Une vie à l'étroit. Je vous propose d'en réécouter un extrait.
Мы, я и моя Лея, решили пожениться.
Еще один раз прошепчу тебе, ты мой.
Ты с ним не будешь, потому что он не из твоего племени.
Что случилось?
Сегодня ночью были похищены наши дети.
On va rappeler justement l'histoire de ce film, Tess Nota, c'est l'histoire d'un enlèvement, l'enlèvement d'une fiancée la veille de son mariage. Et ce film, je crois qu'il vous avait été inspiré par un fait divers qui s'est passé dans votre région natale, près de Nalchik.
Effectivement, c'est basé sur une histoire vraie, mais il faut quand même comprendre que... Il y a effectivement eu des enlèvements, véritablement. Mais l'histoire du film, évidemment, il y a des choses que j'ai mises de manière artistique, que j'ai mises dans cette histoire.
Là, on ne retrouve pas votre région natale, ni le Caucase, dans ce deuxième film. Pourtant, justement, ça a été très important, cet apprentissage du cinéma, y compris à Nalchik. Vous avez eu la chance de découvrir le cinéma là-bas et de recevoir l'enseignement d'Alexandre Sokourov là-bas.
Oui, effectivement, je pense que j'ai encore toujours beaucoup de chance jusqu'à aujourd'hui. Il doit y avoir des gens qui prient pour moi parce que c'était inattendu pour moi de rencontrer Sokourov et que le fait qu'il ouvre une école de cinéma à Nalchik, c'était absolument incroyable. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui nous a donné, nous à tous ses élèves, qui nous a tous donné une profession et une manière de comprendre aussi l'humanisme et de nous trouver une voie dans la vie.
C'est grâce à lui que vous avez pu réaliser ce premier film, Tess Nota, qui a pu vous aider. Il a pu vous aider notamment dans la recherche de finances pour faire ce film. Quel pont vous tracez entre ce premier et ce deuxième film, si ce n'est que ce sont des histoires de femmes, des histoires aussi de jeunesse, en quelque sorte, sacrifiées à la violence.
Effectivement, une jeunesse sous la violence, une jeunesse empêchée par la violence. Je ne sais pas si ça vient de l'endroit dont moi je suis issu, mais j'ai effectivement l'impression, le sentiment qu'il y a une très grande concentration de la violence, c'est dans la jeunesse. Effectivement, quand on est jeune, c'est là qu'est la violence. Peut-être aussi que je viens du Caucase et que c'est peut-être un milieu qui est plus agressif, mais de toute façon, je pense que effectivement, la violence et la concentration de la violence, elle est vraiment durant la jeunesse.
Alors dans le Caucase, il y avait cette mixité ethnique complexe qui existait dans votre premier film, quand Emir Balagov. Là, c'est plutôt une différence sociale que l'on observe entre vos personnages, la manière dont Masha est accueillie, par exemple, par la famille de son fiancé. Alors là, c'est une autre forme de violence que vous faites paraître et que vous nous montrez aussi qui est une violence liée aussi à la ville, à la grande ville, peut-être aussi à l'époque.
Effectivement, la différence sociale était telle qu'elle à l'époque et elle continue d'être comme ça aujourd'hui en Russie. Mais pour moi, c'est pas lié à la violence. Ça ne s'associe pas à la violence. Pour moi, je pense que c'est plus lié à l'injustice. Pour ce qui est de Tesnota, effectivement, les conflits interethniques, c'était...
On peut effectivement
dire que c'est de la violence sur l'individu, mais je pense que c'est plus lié à la dictature. La dictature des anciens sur les jeunes.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont vous avez pu travailler avec les acteurs? Vous avez choisi, encore une fois, des acteurs qui n'étaient pas nécessairement des professionnels ou qui sont encore en cours d'apprentissage de leur métier. Est-ce que c'est le choix aussi de faire un peu table rase et de choisir des gens qui sont encore dans une sorte de naturel du jeu, quand Emir Balagov?
Je ne m'étais évidemment pas dit de manière précise qu'il ne fallait pas que je prenne des acteurs connus. On nous a appris au moment du casting de faire en sorte de trouver l'individualité de chacun des personnages. Et donc, au moment de la recherche de mes acteurs, je ne me suis pas posé la question de savoir s'ils avaient une formation d'acteur ou pas. L'important, ce que je cherchais chez les acteurs, c'était le trauma. Je ne parlais pas d'un trauma physique. Je parlais quelque chose que soit comme une espèce de fardeau que la personne aurait encore aujourd'hui à porter. Parce que j'ai lu il n'y a pas si longtemps un livre de Maria Stepanova qui s'appelle La mémoire de la mémoire. Et il y avait une phrase qui disait que le trauma fait que ça nous sort de la masse pour nous rendre notre individualité.
Et
cette individualité est très précise et très précieuse dans le cinéma.
Qu'est-ce que Alexandre Sokourov vous a appris de ce lien entre le réalisateur et ses acteurs ? Je crois bien qu'il apprenait à tout le monde à jouer aussi pour comprendre ce qui se passait pour les acteurs lorsqu'ils étaient dirigés. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet enseignement et de ce lien ?
Effectivement, on avait aussi un cours d'acteur et moi, ça m'a beaucoup aidé. D'abord, ça permet de dépasser ses propres complexes et de s'en passer même. Et puis de comprendre aussi de l'intérieur quels instruments émotionnels je peux me servir pour faire passer ça à la personne qui interprète le rôle. Et puis Sokourov nous disait qu'il fallait surtout expliquer aux acteurs qu'il faut la tâche et que c'était pas essentiel de leur parler de philosophie. Il vaut mieux essayer d'éviter les adverbes et d'aller à l'essentiel avec les verbes.
Merci Kantemir Balagov d'avoir été parmi nous aujourd'hui et merci à vous Joël Chaperon d'avoir traduit ces propos pour notre antenne. Je rappelle que votre film Une grande fille sort en salle mercredi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Pascaline Bonnet, Alexandra Brouillet, Lou Le Joly, Lou Quevauvilliers et Julien Rosa. À la réalisation Alexandra Longuet, à la technique Nasser Moussaoui.